première lecture. Brillant de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Aujourd'hui, ce sera Hervé. Bonjour.
Bonjour,
Hervé.
Bonjour.
Bien, que vas-tu nous lire aujourd'hui? Quel roman as-tu choisi, Hervé?
Alors aujourd'hui, je n'ai pas choisi exactement un roman. On va dire que c'est une biographie romancée, ô combien romancée d'ailleurs. C'est un livre de Jean Tellet qui s'appelle « Crénom Baudelaire » et qui est sorti aux éditions Mial et Barreau en 2020.
Du Baudelaire, mais tu vas faire fuir nos auditeurs.
Ah ben voilà, je sais ce que j'espérais que tu me dirais. Mais non, je ne vais pas les faire fuir. Enfin, j'espère que je ne vais pas les faire fuir.
Non, il va rester que les puristes.
J'espère bien que non, parce qu'en fait, c'est vrai que Baudelaire, bon, tout le monde dans la croyance est un poète romantique, 19e siècle. Mais en fait, si Baudelaire existait aujourd'hui, qui serait-il? En tous les cas, pas un bourgeois au sens classique du terme. Ou un bobo branché, bedonnant, boursicotant. Non, non, pas du tout. D'abord, Baudelaire, s'il vivait aujourd'hui, il serait jeune, parce qu'il est mort à l'âge de 46 ans.
Ah oui, parce que je pensais à Houellebecq, là. Baudelaire, ça pourrait être Houellebecq.
Oui, c'est un jeune. Ensuite, il était drogué, mais à fond, jusqu'à la moelle. Il était drogué à l'opium et à l'absinthe. C'était des drogues de l'époque. C'est-à-dire, hein, je rappelle, 19e siècle. Donc, on remplace le terme bourgeois par dandy et le qualificatif branché par halluciné. Et ça donne ça. Ah non, je pourrais rajouter asocial, donc malheureux. Baudelaire, c'était un dandy halluciné. Asocial.
Oh, c'est pas mal comme définition.
Allez, un premier court extrait. Perdu. Dans le salon et la salle à manger de la maison, quantité d'invités trinquent lors d'un cocktail dînatoire suivant la cérémonie du remariage de la mère de Charles. 19 mois après son veuvage, c'est un délai bien court, commente une dame à sa voisine. Charles est d'accord, c'est trop court, les bras lui en tombent. Un homme en redingote vient entrechoquer son verre comme celui de celle qui a tout à l'heure changé de patronyme. Et comment se sent madame Caroline Opic en ce jour? Très bien, merci. Très bien, ce n'est pas son fils de 7 ans qui répondra ça si on lui demandait. Et comment se sent ça, Charles, aujourd'hui? Mal, 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 j'ai mal au nerf, mal à crier, qu'il rétorquerait. Ma chérie, viens là. Ma chérie, viens là. Et c'est vers un officier à belle prestance de 39 ans, sanglé dans son uniforme, qu'elle trottine plutôt en direction de son rejeton. Chez l'enfant, brusque apparition de la normale, une faille s'ouvre, un intrus qui a pris sa place. Tout en le cajolant, sa mère l'a trahi. Au jeu d'avant dormir, à qui de nous deux aimera l'autre le plus, elle a perdu. Mais c'est Charles qui s'en trouve paumé. Coincé au milieu de la foule, quel vide autour de lui, quelle noirceur. On dirait qu'un ange fou et invisible l'y fouette à tour de bras. L'affront est cuisant. Le second mariage de sa mère impose au petit garçon sensible la pire des épreuves. Un chaos roule en son intelligence. Il lui semble qu'il reçoit un coup de pioche dans l'estomac. « Eh bien alors, Caroline, me voilà, j'arrive, Jacques. » Jacques Opic, chef de bataillon scintillant des médailles de l'ordre de Saint-Louis et de celle de la Légion d'honneur. Afin de présenter à des commandants et des sous-lieutenants-colonels son épouse, attrape fortement celle-ci par la taille. Vêtue d'une robe ondoyante et nacrée, elle s'en trouve les reins cambrés, la tête renversée en arrière. Son torse en avant fait ressortir ses seins. Charles sent un vomissement lui monter entre les dents. D'une voix tonitruante, le mari à moustache et barbiche ordonne ensuite à Caroline « Va me chercher un verre de rouge et puis aussi de ce pâté au jus qu'a cuisiné notre servante. Tu seras bien bonne. » Et il lui claque une main au cul pour la faire aller comme si elle était une pouliche. Personne ne s'offusque de ce geste à la hussarde, car presque tous les convives, soldats habitués aux manières cavalières des régiments, ont été invités par le marié, qui prévient « Dorénavant, les connaissances de ma femme devront se borner aux militaires. J'élèverai aussi ainsi mon beau-fils à la dure. Moi, j'inflige des roulés aux récalcitrants. » À Louis le Grand, où il accomplira ses études, il aura intérêt à se tenir à carreau. Quelqu'un derrière Charles, qui se retourne brusquement, s'en trouve bousculé et s'étonne. « Tiens, voilà le petit monsieur qui court grimper tout seul dans l'escalier. Mais où va-t-il ? » Le fils de Caroline, devenu Madame au Pic, aurait cru en la grande passion éternelle. Mais chez cet enfant, cela prend des proportions étonnantes. À pas furtifs, au premier étage, il arrive devant la porte de la chambre conjugale qu'il ouvre en pivotant la poignée. Dans cet endroit où dominent l'acajou et le merisier, des murs couverts de faïences anciennes entourent un grand lit dont la vision imaginative provoque chez Charles un état horrible. C'est donc parmi ces draps qu'un arrogant, affolé de poudre et de tambour et aux effluves de caserne, mêlera sa sueur de cheval en rute au corps nu de sa mère, qui en sera réjouie sans doute et se livrera elle-même à des actes obscènes. La tête du fils lui en tourne. Sa bouche se plisse d'un horizontal très amer qui risque de durer. D'ici à ce qu'un jour il considère l'ensemble des femmes comme des putes ou des salopes, il n'y a pas loin. Charles ôte la clé, glissée dans la serrure de la face interne de la porte qu'il referme depuis l'extérieur, à double tour. Redescendu et ayant traversé sa propre chambre, il accède au jardin. À travers la fenêtre de la cuisine, Mariette, découpant des parts de tourte et désossant des volailles, le voit aller vers le puits pour y lancer un petit objet brillant. Il jette la clé de la chambre conjugale et aussi pas mal de sa vie future. Le soleil couchant de ce 8 novembre 1828, d'une lumière droite et terrible, pointe comme un doigt vers lui. Donc on l'a compris dans cette première scène, après un père mort jeune, sa mère Caroline s'est vite remariée avec un militaire de haut rang, haut gradé. J'ai pas dit le grade parce que ça évoluera au cours du temps.
Avec de bonnes manières.
Avec des bonnes manières, ça on l'a compris aussi. Et donc entre le militaire et Baudelaire, qui était un enfant rêveur, eh bien ce fut la guerre immédiate. Baudelaire a souhaité maintes fois l'assassiner. Donc on peut résumer ce que j'avais dit tout à l'heure, enfance malheureuse, je n'y reviendrai pas. Par contre, je voudrais, Dominique, revenir sur le terme dandy que j'ai cité.
Dandy halluciné et asocial.
Halluciné et asocial, oui. Dandy, ça veut dire urbain, je ne l'ai pas assez précisé. C'était à Paris et Baudelaire adorait Paris, il adorait sa ville. Il adorait s'habiller avec des vêtements luxueux car il était riche. Au début, le premier mari était riche. Et il avait hérité de son père, avant d'être plus tard déshérité. Et donc, il adorait ses goûts de luxe. C'était sûrement une époque où le costume avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, on peut le dire. Bon, ça va. Le bord plat de ce couvre-chef a enfin la largeur qui me sied. Tant mieux, car on a dû s'y prendre à trois reprises. La première fois n'était pas tout à fait assez, d'après vous. La deuxième, un petit peu trop. Soupire un chapelier au nez écrasé, cheveux rares et pour yeux deux fentes horizontales. Élégant, original, parfaitement étudié, apprécie Baudelaire, s'en coiffant face à une place, à une glace où il s'absorbe dans la contemplation de sa propre image. Vous enverrez la note à Ansel, le notaire de Neuilly, qui vous la paiera avec l'argent de mon héritage. Dehors, tout n'est que lumière, poussière, tumulte. Des enfants se suspendent aux jupes de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre. Charles, poussant plus loin la porte d'un tailleur réputé, est accueilli par un « J'ai l'honneur d'être vos serviteurs, monsieur. Votre singulier habit est prêt. » Le poète le revêt, c'est un paletot fort médité sur mesure selon son idée, serré à la taille et très évasé aux épaules, en silhouette de cornet, d'où la tête émerge comme une fleur dans un vase, vif et rude. Charles applique un fanatisme de moine inquisiteur et une minutie de vieil horloger à l'analyse des détails les plus insignifiants du vêtement, attache des boutons, couture des ourlets, de la doublure en satin rouge, etc. Avec au dos les deux pans étroits et pointus en queue de sifflet, ça va surprendre, promet le tailleur railleur parmi sa courtoisie. Il faut savoir s'entourer de mystères, répond Baudelaire qui contemple dans le reflet intérieur de la vitrine du magasin son port noble et ses yeux pleins d'une rêverie féline. Faites-moi signer votre billet à ordre. Sur le boulevard, une jument, découvrant l'accoutrement du poète, prend le mort aux dents et brise tout sur son passage, en enclenchant des cris de coq fuyant vers les cours. Plusieurs commerces plus loin et de gros sacs d'emballage au poing gauche, légères cannes à pommeau dorées tenues entre les doigts de la main droite, gantées du chevure clair, Baudelaire observe dorénavant les godasses que lui présentent les unes après les autres la vendeuse d'un chausseur de luxe. Agenouillée devant lui, elle agit avec des baissements d'yeux, un air de couvent sur un ton doucereux, alors que Charles a la bouche très contractile, grimace fortement pour exprimer son mépris jusqu'à une paire de souliers de chasse, brillants de cirage, qui lui conviennent. « Vous en êtes certain, cela ?» s'étonne la vendeuse dont les chastes mouvements ne peuvent que laisser toutes les consciences au repos. « Et puis ceci également. » Il achète sans discernement, et là aussi signe des traites à tout va. Il jette largement par les fenêtres comme s'il était encore au-dessus de l'Atlantique. Nez frémissant, yeux brillants tels deux gouttes de café noir, il promène jusque dans un quartier pauvre un luxe de toilette inhabituel. Il est heureux comme un enfant, alors il retourne dans un Paris grouillant de charrettes à bras et de baraques foraines. Il y a trop de monde, Charles, d'une pièce d'or, jette en l'air, loue les services d'un écarteur de passants qui bouscule les gens pour le laisser aller à son aise. Le poète méticuleux, aux gestes retenus, et que les chats suivent encore, semble choisir l'emplacement de chacun de ses pas comme s'il marchait sur des œufs. Les promeneurs repoussés sur les côtés marquent un point d'interrogation en voyant avancer Baudelaire, qui pourrait se croire l'égal de la femme à barbe et du poisson volant. Des sarcasmes fusent jusqu'aux oreilles de Charles, qui les apprécie, comme il est doux d'être haï par des sots. Charles, voulant préserver ses nouveaux souliers, grimpe sur le dos d'un passeur de ruisseau. Celui-ci porte en toussant son client, en plaie à bout de bras, jusqu'au 17, quai d'Anjou de l'île Saint-Louis. Par précaution, Baudelaire se fait déposer au sec sous le porche de cet hôtel particulier datant du XIIe siècle. Côté cour, permettant d'éviter les effluves malodorants de la teinturerie donnant sur le quai, cette vaste pièce n'est éclairée que par une seule fenêtre aux vitres que Baudelaire a désiré dépolie. Afin de ne rien voir d'autre que la coloration générale du ciel, comprenez-vous, Eugène ? Demande-t-il à un homme grand, fort et chevelu, comme un mérovingien qui l'a rejoint dans son perchoir, après avoir toqué contre sa porte et entendu « Entrez, ce n'est jamais fermé chez moi !» Le visiteur d'une quarantaine d'années, aux moustaches genre d'Artagnan, s'affale dans un fauteuil tapissé d'une scène de chasse. Il contemple plusieurs tableaux dont Charles paraît très fier. Ici, un paysage de poussins. Là, un sujet biblique de Tintoret. Rien que pour ce Raphaël, l'antiquaire du quai d'Anjou, m'en a demandé 2400 francs. C'est peu de chose pour un enragé de peinture espagnole, car c'est un archi-Raphaël, archi-authentique. Raphaël était italien et ce tableau est un faux, comme les deux autres d'ailleurs, assène le visiteur sans même se lever pour aller vérifier de plus près. Je me disais aussi, ces œuvres ne me procurent pas l'émotion que j'espérais, hoche de la tête le jeune poète, pas plus désolé que ça de s'être fait arnaquer. Et vous, Eugène, comment va la peinture lurade ? Eugène en question se lève et tend à Baudelaire la chose qu'il était venu lui livrer, enveloppée dans du papier journal que Charles déchire avant de s'extasier réellement. Oh, un vrai de la croix, que je suis heureux que vous me l'ayez vendu.
Bien, tu viens de citer Delacroix.
Oui, Eugène
Delacroix. C'est bien le Delacroix.
Oui, tout à fait, oui.
Le célèbre peintre de...
Le célèbre peintre.
La liberté guidant le peuple, tout ça.
C'est ça, hein, tout à fait. Que je suis allé voir. Enfin bref, ça c'est autre chose. Revenons-en à Baudelaire.
Oui.
Bien que pauvre et asocial, on l'a dit, il était toujours entouré d'artistes de son époque. Et donc dans le livre, j'ai noté Delacroix. Courbet, Balzac, Flaubert, Théophile Gauthier, excusez du peu hein, quand même, et d'autres de langue anglaise tels que Edgar Poe, qu'il traduisait.
Oui. Ah, exact.
Oui, voilà,
j'ai vu ça,
le traducteur d'Edgar Poe. Voilà.
Et donc, tu disais aussi que Baudelaire a une maîtresse.
Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant pour répondre à ta question.
Alors, c'est parce qu'on en a parlé avant.
Baudelaire,
donc, c'est la même toute sa vie ?
Il a eu une même maîtresse toute sa vie, une mulâtresse,
comme ça,
qui était immense, paraît-il, et qui s'appelait Jeanne Duval. Mais attention, avoir une même maîtresse toute sa vie ne veut pas dire qu'il était fidèle, voilà.
Oui.
À l'époque, c'était peut-être aussi lié à son milieu, il avait de nombreuses maîtresses, et il ne s'en cachait pas, il le clamait haut et fort. Rue Neuve des Petits Champs, à l'intérieur du café Robespierre, Charles Baudelaire est habillé en pot de fleurs. De son fantastique habit noir imposé au tailleur et tellement évasé vers les épaules, son cou s'élève comme une tige soutenant une tête de plante pensive. À la table voisine, un chiffonnier et un professeur d'oiseaux jouent au domino. En face du poète, le romancier Théophile Gautier et Honoré Daumier crient autour d'un billard. Ils s'engueulent, contestent les points. Baudelaire, assis à une banquette en molestine et pipe au bec, lance des ronds de fumée. Sous le plafond bruni par les vapeurs de tabac, il est dans un tricotage d'ombre, puis quitte l'établissement. À la sortie du troquet, un ange gardien de profession raccompagne quelques premiers clients éméchés, tandis qu'un allumeur de réverbère grimpé sur son échelle enflamme des mèches car la nuit se met à ruisseler comme un fleuve sur Paris qui s'endort. Alors qu'il erre vers chez lui, au hasard des ruelles étroites et mal percées, entre des maisons trop hautes gênant la circulation, d'un air corrompu, échappé de boucheries closes, d'égouts ouverts, de cimetières aux tombes décellées, l'atmosphère se trouve chargée de particules difficilement respirables. Au quartier latin, égaré de longues venelles, il découvre au bout d'une courbe une ancienne, minuscule église abandonnée devenue salle de spectacle, le théâtre du Panthéon qu'il ne connaissait pas. En façade, une affiche déchirée annonce un vaudeville en un acte intitulé « Le système de mon oncle ». Le titre intrigue Charles, qui achète un billet par curiosité alors que la représentation va bientôt commencer. Les trois coups sont frappés. Sur scène, un gros monsieur dans un fauteuil fume un cigare en lisant le journal. Depuis les coulisses, on entend les instruments désaccordés des musiciens jouant faux et puis qui s'arrêtent. Côté cour et derrière le gros dans son fauteuil, arrive une soubrette en petit tablier et bonnet à ruban flottant qui porte un plateau chargé de victuailles. Elle est immense et noire, avec de grands yeux comme des soupières, des lèvres épaisses sur un visage aux traits un peu européen, métisse à la peau sombre qui dépasse de plus d'une tête les proportions ordinaires. Elle possède dans sa démarche royale, empreinte d'une grâce féroce, quelque chose de divin et d'animal qui stupéfie Charles, ressentant aussitôt l'attirance d'un gouffre ou d'un abîme. « Quel pectoraux !» s'extasie un voisin du poète. L'exorbitance inaccoutumée de la poitrine de cette fille lui donne l'aspect d'une branche trop chargée de fruits. D'un air fier et plutôt dédaigneux, la comédienne de couleur à gros seins, taille longue et fine, balance ses larges hanches jusqu'au devant de la scène pour dire, d'une voix tétanisante et étrangement musicale, « Monsieur est servi !» Baudelaire, ébahi, prend ça pour lui. Elle repart, côté jardin, ondulant ses énormes fesses. Quoiqu'au bout d'à peine quelques dialogues mal déclamés par d'autres personnages, la pièce s'avère nullissime et qu'ordinairement il se serait vite barré. Charles, électrifié, reste dans la salle, espérant voir réapparaître cette divinité noire comme la nuit qui l'a bouleversée. Mais elle ne revient plus, pas même au salut. Après le spectacle, Baudelaire contourne le théâtre pour demander à un concierge si la fille n'a prononcé que trois mots est encore là, quelque part dans les coulisses. Ah, celle dont même le souffleur ne sait le nom. Sitôt descendue de scène, elle s'est changée et s'en est allée comme une ombrelle blanche. Rue Saint-Jacques, Charles l'aperçoit là-bas qui tient à distance de toute son ombrelle fermée des ivrognes aux colibés et insultes raciales accédées. L'un d'eux parvient à faire tomber le parasol portatif. « Sale négresse !» Cette en fait peut-être mulâtresse de Saint-Domingue se débat au centre d'une mer de plis, d'un foulard tournant autour d'elle pendant que Baudelaire approche. Il ramasse l'ombrelle par son manche pour y pousser le mécanisme qui déploie brutalement en cercle une toile blanche ressemblant à un gros œil de chouette. Il s'ouvre à la face des importuns bourrés qui paniquent alors et s'enfuient en criant « Sorcière !» Celui qui s'est interposé offre maintenant galamment le bras et là aussi, possiblement sans mêler d'origine haïtienne, qu'il propose de reconduire chez elle. « Où habitez-vous ? » ?»« Rue de la femme sans tête. » »« Ça me va, je préfère les femmes bêtes. » Avec lui, c'est direct, il ne roucoule jamais. Il n'est qu'un maladif exalté voulant les plaisirs, arrachant des cris et des baisers se métamorphosant en morsures. Le long de ces chemins glissants, vous ne devriez pas sortir sans être accompagné, dit-il à celle d'1m84 qui mesure une tête et demie de plus que lui. Elle tourne et baisse sa tête vers lui qui pivote la sienne et lève son regard en disant « La pièce était nulle. » « Ah, vous y avez assisté ?» Jouant les utilités et toujours dernière de la liste des personnages dans le programme, je suis comédienne et un petit peu pute aussi pour arrondir les fins de mois. À provoquant, provocante et demi. Baudelaire, qui se pique de ne reculer devant aucune audace, pour qui personne n'est assez crache, est servi. Avec dans la voix un ton façon ancien régime, qui l'affecte, il demande « Et comment vous appelle-t-on » Souvent, c'est Jeanne, Jeanne Duval, à la grâce molle et séductrice, lèvres charnues semblant impudiques et si dépaysantes pour Charles en ce temps où les demoiselles, considérant le soleil comme un outrage, mettent leur vanité dans la blancheur de l'épiderme. J'ai toujours été étonné qu'on laisse les femelles entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu ? « Vous voyez, ma belle chérie, depuis la première qui m'aura trahi lors de ma prime enfance, moi j'ai dorénavant des stéréotypes odieux à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. » « Mais alors, pourquoi s'intéresser à moi ? Ah, que voulez-vous ? Quand la bouche tremble et que le cœur bat, les saines pensées s'envolent. » Arrivés tous deux sur l'île Saint-Louis, alors que Baudelaire informe « C'est là-bas qu'est d'Anjou que je demeure », Jeanne désigne « Moi, c'est au rez-de-chaussée du numéro 6, de cette voie perpendiculaire, où un petit atelier de couture a été transformé en chambrette. Je passe devant pour vous ouvrir ma porte. » Charles de dos la regarde aller avec des rimes apparaissant à ses lèvres. « Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau ruisseau qui prend le large, chargé de toile et va roulant, suivant un rythme doux et caresseux et lent. »
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, yourself free. He said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be caught, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Donc, Jeanne était noire et, semble-t-il, immense parce que nous avons lu qu'elle mesurait 1m84.
Ce qui est beaucoup.
C'est beaucoup pour une femme. Et à l'époque, oui, c'est beaucoup.
Et à l'époque, c'était beaucoup. Oui.
Elle se disait donc comédienne et elle vivait aussi de ses charmes. Oui, parce qu'il fallait vivre. Alors, je ne l'ai pas lu cet extrait-là, mais Baudelaire, de riche qu'il était grâce à son héritage, a été déshérité par le général Oupic, quoi. Donc, et donc, de riche au début, il est devenu très pauvre. Et il avait été mis sous tutelle, voilà, c'est ça. Il ne recevait qu'une maigre pension. Et alors, quand il vivait avec Jeanne, et ils étaient obligés de changer souvent d'adresse pour fuir les créanciers, parfois, Baudelaire, en revenant chez lui, était obligé de rebrousser chemin avant de rentrer à cause des bruits équivoques qu'il entendait dans la chambre.
C'est-à-dire qu'elle gagnait sa vie, quoi.
C'est-à-dire qu'elle gagnait sa vie, exactement. N'empêche, bien que totalement inculte et ne s'intéressant pas à sa poésie, Jeanne va inspirer Charles toute sa vie.
Parce que c'est vrai, tu ne nous as pas encore parlé de poésie. Et tu me parles de Baudelaire depuis le début, mais...
Je ne vous ai pas encore parlé de poésie.
Mais
elle arrive. Attention, ça va être brutal. Elle peut être très équivoque. S'il y a eu tant de livres consacrés à Baudelaire, c'est parce qu'on peut dire qu'il a révolutionné la poésie française. Oui, je le pense. Baudelaire a vécu en pleine période de romantisme. Tu pourrais me citer des...
Musset, Lamartine, etc. Ah,
oui, bien sûr.
Gérard de Nerval.
Exactement. Qu'il connaissait, d'ailleurs. Hein. Mais il était tellement décalé qu'on ne peut pas le qualifier, lui, de romantique. Donc Baudelaire va révolutionner la poésie tant sur le fond, puisqu'il évoquait la plupart du temps la mort, que sur la forme. Et donc, je vais, dans le prochain extrait que je vais vous lire, eh bien... je vais vous lire le poème, entre autres, qui s'appelle « Une charogne », qui mélangeait les vers à 12 pieds et à 8 pieds. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les critiques n'étaient pas tendres. Ça pue l'homme de lettres, ici. Revenu depuis plusieurs jours à Paris après une longue promenade bucolique en amoureux sur des chemins traversant les bois taillis très giboyeux de la Garenne Colombe, Baudelaire a poussé en râlant la porte du café Tabouret où se réunissaient tous les jeudis soirs les poètes parisiens. Une fois par semaine, chacun d'entre eux récite devant les confréries un élément de sa production hebdomadaire. Allergique à la niaiserie académique de la plupart de ses confrères, Charles s'installe à l'écart sur une banquette. Crâne rasé, figure frappante, inoubliable, celui qui change souvent de coiffure, un jour barbu ou moustachu, puis le lendemain imberbe, est vêtu à son ordinaire d'un long habit, évasé aux épaules, que le tailleur ne l'a confectionné pour lui, et que pour lui. Sous le plafond bleu céleste du troquet parsemé d'étoiles argentées, à l'intérieur d'un col beaucoup trop large, son cou maigre ressemble à une tige menant vers une tête, fleur spéciale qui s'évapore ainsi qu'un encensoir en des soupirs répétés. Ce qu'il entend l'ennuie. Tous ces fatras d'alexandrins châtrés évoquent les donzelles pareilles à des elfes qui lui démoliraient bien à coups de poing. Des champs de cascades du jardin d'Éden dans lesquels il se verrait pisser, les couleurs oh là là dorées de l'automne, les scintillements de cristaux de glace en hiver quand il ne voit que des engelures aux doigts. Après pas mal de conneries dans le genre, ça va être au tour de celui qui les autres poètes savent dès leurs sans jamais avoir pris connaissance d'un seul de ses vers. La voix de Baudelaire sera précieuse, onctueuse et cependant mordante. Le contraste sera saisissant entre la violence des images dépeintes et la placidité qui l'affectera. Il s'est préparé à réciter comme on en fit, un peu pompeusement mais avec une rare perfection. Les mots les plus crus, merveilleusement enchâssés, les descriptions les plus hardies vont se succéder et les collègues écouteront ainsi que le public, constitué aussi de jeunes filles, qui s'approchent avec curiosité. Les spectateurs, après avoir oui des titres comme « Une bouche, un téton vermeil, un nourrisson à naître », entendent celui que Charles Baudelaire annonce. Une charogne. Une quoi ? Demande une demoiselle. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, ainsi comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui collaient comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Effectivement, ça décoiffe.
Oui, on peut le dire. Hein. C'est une écriture incroyablement moderne.
Je me souviens quand on était au lycée, nous, on adorait entre nous lire ces petites, ces poèmes qui étaient des poèmes interdits.
Ça me fait plaisir, Dominique, ce que tu me dis. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, à la fois on pouvait l'aduler pour ça, j'oserais dire les jeunes artistes, et à la fois on pouvait le détester, voire le haïr. Et ça, le haïr, c'était la bourgeoisie conventionnel, on va dire.
Cela dit, c'était fait pour ça aussi, ces poèmes. C'était fait pour provoquer, pour...
Ah oui, il les écrivait pour ça, oui. Donc aujourd'hui, de Baudelaire, il nous reste le fameux recueil de poèmes qui s'appelle « Les fleurs du mal », paru en 1857, c'est-à-dire à l'âge de 36 ans pour lui. Mais il faut savoir que le premier recueil a été censuré de plusieurs poèmes. Plusieurs poèmes. Voilà. À une passante, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Installé en terrasse d'un bar-hôtel, au bord d'une voie bruyant des rires des piétons et du choc des fers des chevaux allant au trot, Charles contracte d'un pli horizontal sa bouche amère et ses yeux s'embrument d'une mélancolie au-dessus des narines, soufflant à regret à la surface de son verre de bordeaux blanc qu'il vide. Il ramasse au sol un plat creux qu'il dépose au bord de sa table ronde, puis se lève. Il vous faudra mettre mon ballon de picrate ainsi que la laitue à lui sur ma note, car j'ai encore oublié mon porte-monnaie. Et puis il part, tenant en laisse un mouton à l'épaisse toison teinte en rose. C'est qui ce gars-là ? Demande le plus jeune des serveurs à son collègue. Il paraît que c'est un poète de taverne. Aux quatre rues de Bussy, Charles pénètre dans un immeuble et toise une demoiselle. « Je viens voir Coco Malperché. » La fille pousse une porte et annonce « Monsieur Poulet Malassis, votre rendez-vous est arrivé. » L'éditeur, derrière son bureau, s'étonne de la tête de sa secrétaire. « Eh bien, que vous arrive-t-il, Madeleine ?»« Mais il a les cheveux verts !» Le poète entre, impérieux, alors que l'aussi imprimeur provincial s'exclame « Ah !» Vous tombez bien, mon cher Baudelaire. J'étais justement en train d'essayer d'expliquer à mon beau-frère les intentions des fleurs du mal. Ça sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. Debout près du frangin de sa femme, qui s'est assis, Eugène de Broise semble s'en décrocher la mâchoire à la découverte du poète au boa en plume qui l'entoure, cheveux verts hérissés par le crâne et tenant en laisse un mouton rose qui se met à brouter le tapis. Charles Baudelaire, premier punk sur terre. Auguste Poulet-Malassis, lui, n'y prête pas d'attention. Léger sourire entre moustache et barbiche, yeux plaisamment sarcastiques, au niveau des caractères très différents de son associé, qui, lui, est petit, nerveux, pelliculaire. Il aimerait seulement savoir, êtes-vous plus gai que la dernière fois et l'écriture de votre ouvrage prend-elle tournure ? Je travaille sur sa construction et je viens pour la cinquième fois de faire un squelette arbre du livre, mais ce n'est pas encore ça. Pour le moment, ce ne sont encore que des squelettes bossus que je devrais envoyer à l'école de médecine. Tout d'un coup, me vient une idée de sonner. Un squelette qui chirait au coin d'un bois serait peut-être d'un goût nouveau. De Broise se penche et chuchote à l'oreille de Poulet-Malassis. « Tu es certain que c'est un poète ?» Pendant que Charles, s'asseyant face au bureau, poursuit en tirant sur la laisse du mouton. L'éloge principal que je sollicite pour ce livre est qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un simple ramassis de poésie mise bout à bout dans n'importe quel ordre, mais bien qu'il y a un début et une fin. « Tenez, » ajoute-t-il en sortant de sa poche un papier plié, « je viens d'écrire ça sur une terrasse. Je ne sais pas encore si je le glisserai dans mon bouquet. » Auguste Poulet-Malassis s'empare de la feuille à en tête de l'hôtel de Normandie, puis découvre à une passante. Il tend le papier à Eugène de Broise afin qu'il comprenne l'importance de l'idée d'éditer Charles. « Mon cher Baudelaire, pour un tirage de 1000 exemplaires des Fleurs du Mal, vous recevrez 300 francs payables, moitié à la livraison du manuscrit, moitié après que vous aurez vérifié et corrigé les épreuves de l'atelier de composition, puis signé le bon à tirer. Madeleine vous fera parvenir le contrat. Où logez-vous ces temps-ci ? Dans un petit hôtel borgne et introuvable. Ah, ça va être pratique pour vous joindre. Ben oui. « Pourquoi changez-vous si souvent d'adresse ?» demande de Broise. « Je fausse compagnie à mes créanciers en déménageant souvent à la lueur des torches. »« Avez-vous cependant déjà d'autres idées ?»« Oui, la vision hallucinée d'un amant voyant passer toute une armée de sa maîtresse. » les soldats, les généraux et même les chevaux avec tous les détails scabreux. « Bon, j'en ai assez entendu !» s'exclame de Broise qui quitte le bureau de son beau-frère pour rejoindre le sien à côté, pendant qu'Auguste, quoique se mettant à sourire, prend le parti de son associé. De cette œuvre-là, on pourrait s'en passer. Prenez la mesure du risque, tout de même. Pour l'éditeur, il y a au bout d'un tel poème 500 francs d'amende et 3 mois de prison. J'aimerais beaucoup payer chacun de vos sonnets un peu moins cher, mon cher Baudelaire. Je crains que mes fleurs du mal n'aient que trop peu de pages, redevient technique le poète. Il faudra mettre beaucoup de blanc au-dessus des titres pour que le livre paraisse un peu plus épais. Quant à l'avance prévue le jour de la livraison du manuscrit, pourrais-je la recevoir maintenant ? Auguste Poulet-Malassis glisse une main dans la poche intérieure de sa veste, d'où il sort 3 billets de 50 francs. Je savais que vous alliez me demander. Alors, voilà. Sitôt en allé, le punk à mouton de Broise se précipite dans le bureau d'Auguste. « Tu as donné de notre argent en échange de rien à un voyou satanique ?»« Eugène, épargne-moi ta vertu qui a bien dîné et ta morale qui paie à l'échéance. Là, on parle de poésie exceptionnelle. » Dissension dans la famille. De Broise, homme prudent et conservateur, ne parvient pas à suivre Poulet-Malassis, bien trop audacieux pour lui. Mais où va nous mener la publication d'un tel recueil dont même le titre n'est pas français, Les fleurs du mal ? Je défie qui que ce soit de le comprendre. Veux-tu nous conduire à la ruine ? Ah, ce bouquet d'horreur aura-t-il du succès ? Y aura-t-il un jour un public pour ça ? Je n'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer, poursuit Coco mal perché en feuilletant le tas de poèmes déjà apportés par Asselineau. Par exemple, regarde-là, ces 10 lignes en apparence innocentes, brûlant comme un fer chauffé à blanc. Jamais lu ça. Cela va nous valoir que des emmerdements, je le sens, panique de Broise. Mais non, promet le toujours tranquille Poulet-Malassis alors que son beau-frère s'emporte. Mais quand aurons-nous ce livre ? Quand ? Tu le sais, toi ? De sa chevelure brun fauve qu'il secoue, un nuage de pellicule enneige autour de lui. Auguste se lève paisiblement et va ouvrir une fenêtre en tranchant d'une voix posée. Les fleurs du mal paraîtront quand il plaira à Dieu et à Baudelaire.
Climbing up on Salisbury Hill.
Curieux, n'est-ce pas, le nom de cet éditeur? Il s'appelait Auguste Poulet-Malassi.
C'est étonnant.
Auguste Poulet-Malassi. Et alors, vous avez remarqué que donc Baudelaire s'amusait à l'appeler Coco Malperché. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que Jean Telet aussi, à un moment donné, c'est Jean Telet qui parle,
il
l'appelle également Coco Malperché. Donc, quand Les Fleurs du Mal ont été publiées en 1857, ça a été très mal accepté par la critique.
Oui, ça a été interdit.
Bon,
et donc, Poulet-Malassi l'a toujours soutenu.
Oui, Poulet-Malassi l'a toujours soutenu. Et pourtant, il en a eu des amendes.
Ah oui?
Oui, pas mal.
Donc, il fallait un petit peu de courage. Quand même.
Ils sont devenus amis tous les deux et il l'a soutenu jusqu'au bout.
Bien, bon. Hervé, tu sais que l'une des règles de la radio, c'est de respecter les horaires. Et le temps passe.
Et je vais les respecter. Mais donc, je vais terminer par, par ce poème que je considère l'un des plus beaux de la poésie française de Baudelaire et qui s'appelle « Les bijoux ». La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui verrait le monter comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses et son bras et sa jambe. Et ses cuisses et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Et son ventre, et ses seins, les grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lumière s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.
Eh bien, merci Hervé. C'est bien de terminer par un si beau poème. C'est un poème magnifique.
Et donc, on peut rappeler le nom de ce livre,
ouais, vas-y.
De Jean Telet, qui s'appelle « Crénom Baudelaire », publié aux éditions Mialet Barreau en 2020.
Tu as une explication pour « Crénom Baudelaire » ?
Oui, parce que « Crénom », c'est le dernier mot qu'il a prononcé avant de perdre la tête, puis de mourir. « Crénom ». Crénom. Et il répétait ça sans arrêt. Crénom.
Crénom. Eh bien, Crénom, notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Alors Hervé, ce sera peut-être Catherine.
Ça sera peut-être Catherine.
Donc peut-être ne sais-tu pas quel est le titre.
Non, peut-être que je ne sais pas quel est le titre de la prochaine émission.
Et d'ailleurs, même si tu l'avais su, tu ne l'aurais pas forcément donné.
Non, parce que comme ça, on est libre de changer si on veut.
Voilà. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Et au mois prochain.